Renew. Le dispositif gouvernemental Mon Leasing Électrique est terminé. Mais chez Renew, la voiture électrique à moins de 100 euros par mois, ça continue. Profitez de Renault Zoé E-Tech 100% électrique d'occasion à partir de 99 euros par mois. Renew, véhicule d'occasion toute marque, reconditionné et certifié. Zoé Life 52 kWh, LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 1584 euros après déduction, prime à la conversion. Voir service-public.fr. Offre à particulier jusqu'au 30 avril. Si accordiac, voir fr.renew.auto. Pensez à covoiturer.
Vous écoutez
RMC.
Christophe n'est pas là, mais on se demande quand même si c'était pas mieux avant avec la place de numéro 1 au tennis. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'impression que tout le monde s'en fiche. Je suis même pas sûr que le grand public sache qui est numéro 1 aujourd'hui. Et les joueurs dans tout ça, est-ce que ça les intéresse vraiment? Ben, on va se poser la question, les GG, avec cette question. Et il faut répondre par oui ou par non, les GG. La place de numéro 1 mondial en tennis, est-ce qu'elle a encore de la valeur? Oui ou non? Frédéric Weiss.
Non.
Non pour Frédéric. Richard Dourt.
Oui.
Oh, c'est pas possible.
Oui.
Oui, c'est bien. Marion Bartoli.
Malheureusement, dans les conditions actuelles, non.
Non, dans les conditions actuelles. Très bien. Pour nous aider à répondre à cette question, on va accueillir monsieur tennis d'RMC, Eric Salio. Salut Eric.
Salut les grandes gueules.
Salut.
D'abord, Eric, pour les non-experts, pour ceux qui nous écoutent, est-ce que tu peux nous expliquer simplement comment on devient numéro 1 au tennis?
Bah, écoute, c'est à la fois simple et compliqué, hein, puisque le classement ATP est calculé sur les résultats des 52 dernières semaines, en prenant en compte uniquement les 18 meilleurs résultats. En général, les passages de relais s'effectuent à l'issue des grands chelems, parce que décrocher un majeur rapporte 2000 points. Mais cet hiver, par exemple, Daniil Medvedev est devenu le 23e numéro 1 de l'histoire, alors qu'il prenait son petit déjeuner à Acapulco. Battu en quart de finale dans un autre continent, à Dubaï, Novak Djokovic lui avait offert cette fleur. C'est évidemment moins jouissif que de réussir le doublé Grand Chelem maillot jaune, mais le Russe a reçu les félicitations de tous ses pairs. Il n'avait rien volé, même si les puristes, et je sens que Marion a des choses à dire, diront que le classement gelé à cause du Covid a modifié la donne. J'avoue. Mais quand ils sont gosses, tous les joueurs rêvent d'être numéro 1 mondial. Et c'est un véritable accomplissement que d'être tout en haut de la pyramide. Maintenant, devenir une cible, c'est épuisant. Si on veut pas connaître une décompression fatale, il faut se fixer de nouveaux objectifs. Novak Djokovic a ainsi chassé le record de semaines passé en tête du classement ATP. Il en est à 361 et il semble intouchable. Mais il y a d'autres records à aller chercher. En 2018 à Rotterdam, Roger Federer est redevenu à 36 ans et 6 mois le numéro 1 le plus âgé de l'histoire. Mais cette perf est désormais menacée par Rafael Nadal parce que avec deux majeurs en poche en 2022, l'Espagnol est idéalement placé pour achever l'année avec le maillot jaune, ce qui constituerait donc un record absolu. Voilà pourquoi Daniil Medvedev semble se résoudre à être dépossédé de sa tunique, à moins qu'il ne parvienne à signer un été torride, auquel cas la bagarre serait relancée. Et pour revenir au cœur de votre débat, demandez à Carlos Alcaraz ou Yannick Sinner s'ils ne rêvent pas de dominer le monde.
Merci Eric, et tu restes avec nous justement pour arbitrer ce débat, parce qu'il devrait y en avoir un, en tout cas avec Richard qui, avec courage, a dit un grand oui à cette question.
Merci.
Est-ce que cette place de numéro 1 a encore de la valeur? T'es le seul à dire qu'il y en a encore de la valeur, et avec Eric hein, qui visiblement a appuyé ton propos.
Bah oui, parce que quoi qu'il en soit, quel que soit le système d'attribution de points, quel que soit le fait que ça a été arrêté, quand on est numéro 1 mondial, numéro 2 mondial, numéro 3 mondial, on est quand même les meilleurs quasiment joueurs de tennis qui existent sur la planète. Alors bien sûr que le classement n'est pas forcément totalement le reflet du niveau, mais quand même être numéro 1 mondial, et voilà, les nouvelles pépites, Alcázar, etc. Ben ouais, quand on est numéro 1 normal, comme notre champion du monde d'apnée, on est numéro 1 mondial, quoi. Donc ça a encore de la valeur pour moi.
Ok, Fred.
Ben Claude, non, pas encore.
non. Il y a débat. Fred n'est pas d'accord avec toi.
Moi, je vais me positionner en spectateur lambda. Tu me demandes avant l'émission qui est numéro 1 mondial, j'en ai aucune idée. Ce qui avant était une question quasiment de culture générale, c'est-à-dire que tout le monde savait, tout le monde discutait, tout le monde se disait ok, c'est le joueur à battre, etc. Ben, le spectateur lambda, et encore une fois je m'inclus dans ça, il n'y en a aucune idée. J'ai découvert que c'était Medvedev, je ne savais pas du tout. Alors que c'est un sport que j'apprécie, je ne savais pas. Je trouve que ça a perdu de son charme. Et quand j'entends, oui, on a Djoko qui est en train de battre le nombre de semaines en tête de l'ATP, j'ai l'impression qu'on est revenu au top 50, quoi. Donc le mec est en train de garder le plus de semaines possible le truc. Enfin, c'est. Je n'y comprends rien. L'explication.
Il est sixième actuellement, Djokovic.
Oui, ouais, j'ai vu ça. J'ai un peu regardé. Nadal est troisième, etc. Mais j'ai un peu regardé. Mais encore une fois, il a fallu que je regarde. On a moins l'information rapidement de qui est numéro un. Et j'ai l'impression que ça ne vaut que pour celui qui est numéro un, en fait. Être numéro un mondial, c'est génial pour celui qui est numéro un. Les autres, j'ai pas l'impression que ça les intéresse beaucoup. Donc voilà, pour moi, ça a perdu de son charme.
Oui, encore une fois, aux yeux du grand public. Hein, et il a raison, Fred. Est-ce qu'il a encore de la valeur? Alors pour les joueurs, Eric nous dit oui, sans doute, bien évidemment, mais le grand public, est-ce que ça a encore de la valeur, Marion?
En fait, il faut nuancer. Dans une année, on va dire, normale et pré-Covid, en 2018, 2019, 2017, bien sûr que la place de numéro 1 mondial avait une valeur extrême parce que tout le monde jouait une saison complète comme il le voulait, avec la programmation qu'il décidait de faire. Et donc, c'était réellement le meilleur joueur de la planète qui était numéro 1 mondial. Entre le Covid, le classement gelé, les problèmes de vaccins, les problèmes de non-attribution de points à Wimbledon, donc même si Djokovic a gagné et qu'il a défendu son titre, il perd quand même 2000 points. En fait, le classement est tellement faussé actuellement dans une période extrêmement particulière due à des choses qui dépassent le tennis, mais de ce fait, plus personne n'arrive à suivre quoi que ce soit. Et c'est ça le problème. Si on arrive à revenir sur une période normale, je ne sais pas, peut-être d'ici un an ou deux ans, et que là, c'est une bagarre vraiment à la loyale du 1er janvier jusqu'à la dernière semaine de l'année qui va être numéro 1 mondial, là oui, on pourra à nouveau donner une valeur extrême parce que ça sera le meilleur joueur de l'année globalement. Mais là, actuellement, avec tous ces facteurs-là, on ne peut plus donner de valeur. On est quand même à Rafael Nadal qui a 22 tournois du Grand Chelem, qui est derrière au classement par rapport à Sacha Zverev, qui s'est tordu la cheville et qui s'est explosé la cheville à Roland-Garros, qui n'a pas pu participer à Wimbledon et qui peut-être ne pourra pas participer à l'US Open. Novak Djokovic, 21 tournois du Grand Chelem et 6e mondial. Donc on n'arrive plus à expliquer, effectivement, comme le dit Fred, aux spectateurs lambda qui suivent de ça un petit peu de loin, mais qui ont quand même les notions de qui a gagné le tournoi du Grand Chelem et qui est en haut de la pyramide. On n'arrive plus à expliquer le classement actuel. Et c'est ça le véritable cœur du problème, et malheureusement ça a été par des décisions prises, et c'est vrai que ces points enlevés à Wimbledon ont vraiment aussi encore une fois chamboulé beaucoup de choses, mais là actuellement dans le cas précis, non, ça n'a plus de valeur. Si ça revient à une année totalement normale, oui, bien sûr que ça a une immense valeur.
Et après je vais demander à Eric si c'était pas mieux avant, puisque normalement à cette heure-là vous retrouvez cette chronique. C'est vrai qu'à l'époque c'était un vrai combat. Là, aujourd'hui, j'ai l'impression, Eric, que le combat, c'est pour le nombre de grands chelems. On parle beaucoup, beaucoup de ça. Et que les joueurs, évidemment, ils se préparent différemment. Ils choisissent peut-être leur compétition, les grands joueurs, pour aller au bout d'un grand chelem, plus que pour devenir numéro un. À l'époque, quand c'était Borg, McEnroe, il y avait des vrais combats. Sampras, Agassi, pour cette place de numéro un mondial. On avait l'impression que c'était un véritable enjeu.
Non, mais c'est ça, l'enjeu s'est déplacé. Maintenant, le grand public ne jure que par le nombre de grands chelems.
Mais cette pas que le grand public, tu vois, les joueurs aussi, visiblement, non? Quand ils se préparent pour ces grands chelems.
Ah oui, non, mais c'est vrai que les cadors, maintenant, c'est comme si toi, tu sortais plusieurs fois avec une top modèle. Bon, vraiment, t'en as marre, quoi. Tu
te lasses. Je sais pas,
Djokovic.
Alors, par contre,
son obsession, c'est le nombre de grands chelems. Donc, effectivement, il prépare sa saison en fonction de cela. Et maintenant qu'il a perdu sa place numéro 1, j'ai envie de dire, il s'en moque. Il n'en a plus rien à faire. Le problème, et Marion a raison, c'est que ce classement ne veut plus rien dire. Et ce qui est gênant, c'est que ça fausse maintenant les tableaux des grands chelems. Parce que, on va peut-être se retrouver là-dessus. Les deux meilleurs joueurs du monde, c'est Nadal et Djokovic actuellement. C'est pas normal qu'ils se retrouvent en quart de finale à Grand Chelem. Et ça peut être le cas, enfin, évidemment, dans le cas où Djokovic a le visa pour jouer l'US Open, mais si le tirage au sort est coquin, ils auraient encore pu se retrouver en quart de finale l'US Open. Je trouve que là, il y a un problème. Et l'ATP a fermé les yeux. Même les patrons des grands tournois devraient faire des choses. Et instaurer un statut, enfin gérer eux-mêmes les statuts des têtes de série. C'est pas normal qu'on ait un quart de finale Djokovic Nadal à Roland Garros. Enfin, moi c'est mon avis personnel.
Les spécialistes tennis. Donc, bon, je suis le tennis comme tous les sports et j'aime beaucoup. Est-ce qu'il y a une réflexion sur la réorganisation de l'attribution des points, où, par exemple, on pourrait, par rapport, ben, alors, Djokovic, Nadal, Federer, 22, 21, 20, avoir des points parce qu'on a gagné autant de tournois, et pas forcément être que sur l'année? Ces joueurs-là, je sais pas, c'est une réflexion. Alors, sur les tournois du Grand Chelem, ok, ils devraient être protégés, ils devraient pas se rencontrer en quart de finale, ça c'est certain. Mais est-ce qu'il y a une réflexion sur l'attribution des points ATP pour que le plus grand public puisse suivre plus facilement le classement mondial, savoir qui est le meilleur joueur au monde depuis 2 ans, peut-être 1 an?
Malheureusement, il n'y a pas de réflexion, mais ils devraient en avoir une, ça c'est certain. C'est le premier aussi de WTA.
Il y a une grosse différence. Le vainqueur d'un grand chelem prend 2000 points. Medvedev a gagné cette nuit Los Cabos. Il prend 250 points. C'est quand même un gouffre, tu vois. Donc, ils ont tout fait pour que les meilleurs soient vraiment récompensés.
Comme a dit Marion, si tu prends deux Masters 1000, tu as 2000
points. Pareil.
Ou les Masters 500, c'est pareil. Enfin, je connais un peu. T'as 500 points quand tu gagnes. Mais avoir des points parce que, justement, parce que t'es le meilleur depuis 10 ans. C'est ça.
C'est difficile, ça, Richard. Après, c'est quand même difficile parce que tu peux être le meilleur depuis 10 ans et avoir un coup de mou.
Sur les deux dernières années,
tu peux être le meilleur depuis 2 ans et avoir un coup de mou et avoir un moment de creux. Enfin, c'est un peu compliqué quand même.
Non, mais tu vois ce que fait Wimbledon. Je pense qu'ils ont raison de le faire. C'est qu'ils prennent en compte la spécificité de la surface et qu'effectivement un joueur peut avoir, par ses résultats dans ce tournoi en particulier sur Wimbledon, les années précédentes, un classement plus élevé que son classement actuel ATP. Et ils font pareil pour la WTA d'ailleurs. Donc ils adaptent en fait le classement de tête de série.
Mais ils l'ont abandonné ça, Marion, malheureusement. Ils l'ont abandonné, malheureusement. Et oui.
Pour cette année uniquement, parce que les points ont été enlevés de toute façon. Mais c'est vrai que je suis complètement d'accord avec toi sur Roland-Garros. Ils n'auraient jamais dû pouvoir se retrouver en quart de finale.
Est-ce que les tournois sont indépendants pour prendre des décisions comme ça?
Non.
Ah voilà. Donc, c'est l'ATP qui décide.
Exactement.
Donc il faudrait changer, Marion, très clairement, le système d'attribution de points. C'est ce que tu nous dis.
Pour moi, oui, il faut attribuer plus de points au tournoi du Grand Chelem.
Oui.
Parce qu'en fait, quand tu regardes les joueurs aujourd'hui, comme c'est Rafa Novak qui ont passé la trentaine et qui jouent quand même beaucoup moins de tournois, qu'un Medvedev, un Zverev, Alcaraz, etc., qui sont en pleine force de l'âge et qui vont jouer des années à peu près une vingtaine de tournois, ils en jouent beaucoup moins. Bah forcément, même s'ils gagnent beaucoup, sur le fait qu'ils en jouent beaucoup moins, et comme il n'y a pas autant d'écart que ça en termes de points, ça s'équilibre trop. Alors que si tu mets un grand chelem avec beaucoup plus de points, même s'il y a un joueur derrière qui joue une saison complète et qui effectivement va faire des résultats plus régulièrement, il ne va pas pouvoir rattraper celui qui gagne 2 grands chelems ou 3 grands chelems.
Après, on te répondrait que la régularité fait partie aussi normalement du numéro 1. Il doit être le plus régulier.
Le grand public connaît mieux les grands chelems. Ils vont regarder ça, donc ils vont se dire ok, ils ont gagné les grands chelems, c'est logique qu'ils soient numéro 1 en fait. Quelque part, le grand public, les tournois mineurs, excusez-moi de l'appellation, mais les tournois mineurs, ils sont moins suivis. Donc ça choquerait moins les gens de se dire que ceux qui gagnent les grands chelems sont les
mieux passés. T'as gagné combien de tournois mineurs, Marion? Parce que
mineur, je suis désolé, Marion, c'est pas ce que je veux dire. Mais tu sais,
je m'en rappelle même pas. Je pourrais même pas te donner le chiffre exact. Je sais que j'ai gagné un grand chelem, mais c'est là où Fred a complètement
raison. T'as gagné 8 titres.
Oui, voilà. Mais tu vois, tu m'aurais dit 9, je t'aurais dit ou 7. Je ne me souviens pas exactement. Tu te souviens des finales du tournoi du Grand Chelem perdues ou celles que tu as gagnées? Mais c'est les autres tournois, bien sûr, ça fait partie d'un calendrier.
Moi, j'ai besoin de ton avis, Marion. Ce qui a changé aussi dans le tennis, c'est que avant, les joueurs de terre battue, ils étaient nuls sur herbe. Ou alors les joueurs sur herbe étaient nuls sur terre battue. Maintenant, on retrouve les Nadal. Il est presque aussi bon, mais il devient tête de série à Wimbledon comme à Roland Garros ou comme à l'US Open. Avant, on avait par exemple Stefan Edberg, il pouvait pas jouer sur terre battue, il n'y avait pas service volé, il se faisait démonter.
Oui.
Tu vois ce que je veux dire? Les joueurs ont complètement
évolué, donc
c'est
plus dur à
suivre. Il gagnait jamais Roland Garros, bien sûr.
Voilà.
Mais en fait, ça évolue,
donc c'est peut-être plus dur à suivre. Enfin, je sais pas. C'est une question.
Oui et non. Le problème, c'est que ceux qui gagnent les tournois du Grand Chelem, c'est-à-dire qu'il y a eu 3 grands chelems qui sont passés, il y en a eu 2 pour Rafa et 1 pour Novak. Ok. Ces joueurs-là ne jouent plus des saisons entières parce que par leur âge, les blessures accumulées, etc., ils ne jouent plus des saisons entières. Donc, tu regardes le nombre de tournois qu'ils ont joués en dehors de ces tournois du Grand Chelem. Ça se réduit à portions congrues, il n'y a quasiment rien. Et dans ces tournois-là, comme ils ne se préparent pas vraiment pour les gagner non plus, c'est d'autres qui les gagnent. Et en fait, quand tu accumules les points de ces autres tournois, tu arrives à autant que si tu avais gagné 2 grands chelems. Tu vois, c'est ça le problème en fait.
C'est peut-être la faute, c'est ce que nous dit d'ailleurs un auditeur sur l'appli RMC Direct Studio, c'est Yo qui nous dit les trois monstres, donc Federer, Djokovic, Nadal, ont en gros fait baisser l'intérêt de cette place du numéro 1 parce qu'ils se sont tellement battus pour les records en Grand Chelem, bah que désormais ça n'a plus aucun intérêt d'être numéro 1 quand tu t'appelles Medvedev, on ne le sait pas puisqu'on retient uniquement cette lutte pour les Grands Chelems. Ouais, c'est de leur faute,
mais ça paraît assez logique.
Non, mais c'est vrai. C'est vrai.
Bravo Yo.
Voilà. Ouais, mais après, moi je suis joueur de tennis, je préfère gagner l'US Open que le Masters 1000 de Miami, quoi.
C'est évident, bien sûr.
Mais oui, donc, c'est évident, donc voilà. Et je comprends.
Mais tu vas gagner Miami et Rome, tu vas avoir autant de points que si tu gagnes l'US Open.
Si tu gagnes l'US Open, c'est ouais. ça qui est. Et
si tu calcules, voilà. Effectivement, le calcul ouais, est
et je comprends ce que tu dis.
Il faut faire des mathématiques, ça veut dire que c'est pour ça que les tennisman et tennismen.
C'est pour ça que
tu n'as
pas pu être tennisman.
Exactement. Parce que l'explication d'Eric au départ, qui dit c'est super simple le nombre de points, j'ai rien compris. Hein. Tu retires un grand chelem, tu ajoutes un master mid, tu divises par 14. Et il a dit c'est hyper simple, je suis désolé, moyen quand même, Eric.
Eric, pourtant, il a bossé. Eric, tu as le droit de répondre à Fred.
Il y a un truc qui est important pour les joueurs aussi, c'est le statut de numéro 1 mondial en fin d'année. Parce que déjà, il y a un énorme bonus financier, je crois que Marion peut le confirmer. Et là, là ça représente vraiment quelque chose. Parce que tu peux être numéro 1 au milieu de l'année, on s'en moque. Mais le mec qui réussit à terminer numéro mondial fin d'année, bah, ça veut dire quelque chose. Et on sait que les gars se battent pour ça. Djokovic, en fin d'année dernière, il est venu gagner Bercy parce qu'il voulait absolument sécuriser ce spot. Et puis, il y a des records à battre. Il chassait aussi Sampras. Donc ça, c'est très important pour ces gars-là parce qu'ils veulent laisser une trace dans l'histoire aussi.
Bah voilà, il n'a pas répondu totalement à ta question.
Il s'en fout complètement de ce que je lui ai dit, il n'y a aucun problème, il a voulu dire ce qu'il avait à dire, il l'a dit et c'était très intéressant, merci beaucoup Eric.
Mais il ne t'a pas rappelé comment gagner des points pour être numéro 1, ça tu ne l'as toujours pas compris.
Toujours pas compris.
Tu réécouteras le podcast.
Tu gagnes des matchs.
Après moi je suis attentif. Je suis à la place de Novak et de Rafa.
Concrètement, si tu gagnes des grands chelems, tu as de grandes chances d'être numéro 1 mondial en fin d'année.
Mais ouais.
Ouais, il faut être
pas assez, d'après Marion, pas assez.
Voilà. On va pas refaire le débat.
Tu vois, t'as toujours pas suivi Eric.
Si même Eric ne suit pas, alors c'est une catastrophe. Il paraît que c'est notre spécialiste tennis. Juste une question. Ouais. Alors Eric et Marion, vous n'avez pas le droit d'intervenir. Je vais la poser à Fred. Tiens, qui est numéro 1 chez les dames? Numéro 1 en l'occurrence.
Ziatek.
Oh, bravo.
Alors,
polonaise.
Alors, attention, est-ce que Geoffrey Charpie est dans le coup et t'a parlé dans l'oreille?
Évidemment que non, c'est la polonaise, Ziatek, vraiment.
Alors, bravo.
Voilà,
c'est sûr que Richard le savait pas, ça. Tu vois, t'as été sauvé par Fred.
Merci, Fred.
Avec plaisir.
Ziatek, effectivement, la polonaise qui est devant. Merci beaucoup, Eric. À très bientôt.
Je vous en prie, à bientôt.
On se retrouve dans un instant pour les paris RMC, d'ailleurs.
On fera ce texte pour l'explication.